L'expérience commence. Avez-vous déjà entendu un roman vous parler, vous raconter sa fabrique? Cet endroit-là de travail, d'effort, de vertige parfois, de doute et puis de grande joie. Blandine Rinkel partage l'intimité de l'écriture de son troisième roman qui vient de paraître aux éditions Fayard. Il s'appelle « Vers la violence ». Elle fait entendre ce que le corps et la tête mettent en jeu dans l'écriture. On entend ce qu'une éditrice encourage. On entend le chemin vers la radicalité, au plus proche de soi. Il y a le ton de la confidence, le dialogue confiant, et puis une constellation de lectures et de musique amies. Un roman va naître sous vos yeux, ou plutôt à vos oreilles, grâce à Blandine Rinkel et Julie Béressy à la réalisation.
D'abord, il y a toujours un carnet, un stylo et du vide. Des phrases jetées, maladroites, désordonnées, qui ne resteront pas jusqu'à la fin, mais qui me renseignent sur mon propre inconscient. Qu'est-ce qui me travaille? Chaque jour, j'écris en vrac, et malgré moi, les mêmes choses, les mêmes obsessions reviennent. Alors je les laisse mûrir, et puis un jour, je décide de travailler ce qui me travaille. Le roman commence. Comment est-ce qu'on décide de la direction d'un roman? Quel est l'apport d'un éditeur, d'une éditrice, des influences, des amitiés dans tout ça? Comment écrit-on un livre, ou plutôt, comment n'écrit-on jamais un livre tout à fait seul? Dans cette émission, il ne sera que peu question du contenu de mon troisième roman, Vers la violence. C'est un livre sur une relation ambivalente, joueuse, terrifiante, entre une fille, Lou, et son père, Gérard. Flic dans le civil, ogre compteur dans le privé. C'est un livre aussi sur la construction intime, professionnelle et sexuelle d'une femme. Sur ce que la violence fait de nous et sur ce qu'on peut faire d'elle. Mais ça, je vous laisserai le découvrir avec le texte. Dans cette émission, il sera surtout question d'écriture, des chemins sinueux que l'écriture emprunte pour qu'une histoire devienne un roman.
Comme toi, je suis remplie de choses tues. Mais si j'écris cette lettre, c'est pour briser le sortilège.
Vers la violence, la fabrique d'un roman, une expérience de Blandine Rinkel et Julie Béressy. Et donc au départ de Vers la violence, il y avait juste un titre, trois mots qui disaient une direction. J'avais eu l'impression avec mes précédents livres d'avoir montré un visage trop domestiqué. J'avais été polie, sans doute par tempérament, mais aussi parce que complexée d'être femme, d'être jeune, de danser, de venir d'une banlieue de Nantes, de ne pas correspondre à l'archétype qu'on se fait d'un écrivain invrai. Et je ne voulais plus être bénigne. J'avais été timide, conciliante, alors que je sentais gronder en moi quelque chose de plus sauvage, de plus archaïque aussi. Une violence tue. Une part plus masculine, ou bien à la fois féminine et corrosive. C'est elle que j'ai voulu aller chercher. Et c'est en discutant avec mon éditrice que la direction du roman s'est précisée.
Très longtemps, il me semble que dans la littérature française, les femmes ne se sont pas autorisées. La violence, le sarcasme, l'agressivité.
Stéphanie Pollack, éditrice.
Et ça me faisait plaisir, moi, dès que j'avais la sensation qu'il y a quelque chose de cette traque-là, de la traque d'une voix beaucoup plus archaïque était à l'œuvre dans des textes écrits par des femmes. Parce que je trouvais qu'il y avait effectivement un enjeu là, politique intéressant. Je me souviens qu'une des... Enfin, que les premières discussions qu'on a eues, ça a été aussi de t'inviter peut-être aussi à lire des auteurs qui me semblaient beaucoup plus proches de toi que tu n'imaginais peut-être. Je pense à, Clarice Lispector, je pense à Edna O'Brien, je pense à Jack London, à Malaparte, là plus récemment à Genet. Et comment à travers eux aussi t'amener à découvrir peut-être une part de cette violence que tu as, à mon sens, toujours abritée, qu'on sentait aussi chez Catastrophe, hein, si je veux essayer de consenter aussi dans ta musique, c'est-à-dire que c'est une musique très éclatante, très solaire, très joyeuse, mais où quelque chose d'une âpreté, d'une mélancolie aussi, un peu à outlot, circulait comme ça aussi, et qu'elle n'était pas forcément mise en avant. Voilà. Et moi, c'est vrai que j'ai eu envie de t'inviter à aller vers elle. Donc je ne suis pas très étonnée qu'au bout de trois livres, ce titre se soit aussi imposé. Parce que il me semble que ça a hanté beaucoup de nos discussions.
Je détestais qu'on me dise que j'étais belle. Pire, jolie. Pire encore, mignonne. J'y voyais une insulte à mes efforts. Ce dont j'avais la sensation, qu'on m'attrapait alors dans cette toile d'araignée qu'était le regard des hommes. Qu'on me dépossédait de ma technique, de mon travail, me réduisant à devenir un bibelot désirable. Dans le mot « joli », je ne voyais pas le compliment, mais l'injure. Une manière de rabaisser l'autre et d'en faire sa chose, toute petite, de préférence.
Ouais, je pense que quand on écrit, en tous les cas moi, dans mon expérience de l'écriture, quelque chose d'assez long à faire, c'est de retirer des couches de politesse, de complexe parfois, des couches de présentation qu'on veut donner de soi aux autres et qui parfois, oui, recouvrent l'espèce de noyau en fait, qu'on traque quoi, quand on écrit. Et donc c'était assez long pour moi de retirer ces couches de complexe et m'autoriser à écrire de manière plus crue. J'aime bien l'idée de crudité. C'est comme si on tournait autour de quelque chose de cru, mais bon, c'est un peu comme l'idée que les choses les plus simples sont les plus longues en fait à formuler. Bah, je pense que les choses les plus crues sont longues aussi parce qu'il faut retirer toute une couche de vêtements, de recouvrement qu'on met sur ce qu'on a à dire par peur de le dire franchement.
Il me tient par le menton et j'ai peur de mourir. Gérard a posé son pouce sur ma mandibule. Son index et la tranche de son majeur dans le creux de ma gorge. Il tient mon os avec trois doigts robustes quand, en retour, j'ai apposé ma main contre sa mâchoire carrée, la serrant de toutes mes forces pour qu'elle ne m'échappe jamais. Dans un western familial improvisé, nous nous tenons face à face, assis à la table de la cuisine, à explorer le noir commun de nos yeux. Et si nos regards se sourient, le bas de notre visage, lui, ne scie pas.
Quand un auteur travaille le rapport qu'il a à l'écriture, à la mise en forme de ses obsessions, de ses émotions, c'est toujours le travail aussi d'une mise à nu, c'est-à-dire aller vers quelque chose de plus en plus nu. Et chez toi, il m'a semblé que d'aller vers quelque chose de plus en plus nu, c'était d'aller vers ce que tu avais de plus violent. Et je pense que tu fais, mais même si j'ose dire dans la vie, beaucoup de travail tout le temps, sans même s'en rendre compte, pour ne pas que cette violence apparaisse. Et c'est vrai que moi, quand je la sentais affleurer dans le texte, j'avais le sentiment de tout à coup de voir quelque chose de toi que j'aimais et qui t'était essentiel en fait, qui était vital quoi, qui était... Donc oui, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai essayé d'encourager. Et si on doit parler aussi de, je sais pas, de la violence du travail éditorial, parce qu'il y a aussi une forme de violence très attentive, hein, très... Mais je pense que c'est toujours aussi, enfin en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire, de mettre en tension, vraiment mettre en tension l'auteur avec ce qu'il ignore peut-être encore de son propre travail et à travers ça évidemment le mettre en tension avec lui-même. Et que si le texte et le roman à venir ou le roman qui est en train de se faire peut en témoigner, c'est toujours, enfin les personnages y gagnent, la phrase souvent aussi se voit électrisée de toutes ces tensions qui font que petit à petit, se voit opérer aussi une forme de mise à nu de ce que l'auteur a de plus intime en fait, de ce que l'auteur a de plus, de sa part la plus asociale en fait. Et ça, je crois que c'est précieux en littérature.
Qu'on me tranche le cou, si je n'ai pas su trancher entre tous les remous de leurs âmes certifiées. Suis-je fière? Peut-être. C'est le j'ai, joli moi, des avis, mes amis, eh bien j'en ai pas, j'en ai plus. Oh, laissez-moi.
À cette époque déjà, Ardan semblait incarner la mauvaise conscience de Gérard. Ce chien lui pesait. Moralement, physiquement, il l'incommodait. Je revisite les élans joyeux et brutaux de Gérard, sa manière de serrer la mâchoire et de sourire jusqu'à la grimace quand il était attendri par quelque chose. Je crois sentir ses odeurs aussi, et ce rire qui était comme un aboiement aux oreilles des gens bien éduqués. Je revois son physique et je piste l'animal en mon père. L'espèce de chien sauvage qu'il était et ne supportait pas de devoir masquer. Je revois Gérard assister au combat que menaient les chiens dans la rue, et je l'entends à nouveau aujourd'hui encourager Ardan à attaquer ses congénères. « Vas-y, bouffe-le, putain, bouffe-le, vas-y !» Je l'entends hurler sur les chiens, comme s'il rêvait d'en être. « Allez, attaque ! Fous-le en l'air, vas-y !» Je l'entends aboyer, comme disait ma mère, comme s'il était en concurrence avec les autres, comme s'il voulait hurler avec les loups. Gérard identifiait, je crois, quelque chose de lui-même dans la présence de ce chien, dans ses crises, et de folie et de joie, dans ses élans sauvages pareils aux siens. Et il ne le lui pardonnait pas.
Comment est-ce qu'on s'entoure pour écrire ? Aller vers ce qu'on a de plus cru en soi, creuser et se dénuder, ne consiste pas pour moi à faire le vide et à attendre que ça vienne, mais au contraire, à aller se nourrir de tout un tas de choses, de livres, de films, de musique, qui permettent d'affermir sa propre pensée, sa propre sensibilité. J'écris avant tout en lisant, en allant voir ailleurs si j'y suis. Dans la période où Vers la violence n'était pas encore un texte, mais une somme d'impressions et de paragraphes un peu désordonnés, je me souviens que des influences m'ont permis de me préciser. Il y avait la musique de Fishback, dont Ardan, le chien du livre, porte le nom de son propre chien. Il y avait les films de Chloé Zhao, Nomadland, The Rider. Il y avait l'anthropologue Nastasia Martin, et tout un panel comme ça de femmes. Et puis il y avait aussi des œuvres d'hommes. Le livre Canada, de Richard Ford, Jack London, Joseph Conrad. La série Succession. Un mélange de genres dans tous les sens du terme. Des genres féminins et masculins, des genres littéraires, musicaux, cinématographiques. Et c'est ce mélange des genres qui m'a influencée et qui, je crois, a précisé la singularité de la voie que je creusais. Je voulais aller vers le mélange, que mes personnages soient à la fois nouveaux et ancestraux, et surtout, qu'ils soient à la croisée des genres.
Jusqu'à présent, je t'ai toujours vue extraordinairement, tendre et compréhensive avec les femmes, et très, beaucoup plus impitoyable avec les hommes. Et soudainement, en travaillant le personnage de Gérard, je t'ai vu, t'inviter toi-même, parce que je n'ai pas eu la sensation d'intervenir beaucoup là, à cet endroit-là de ton travail, mais que tu as travaillé à plus de générosité quant au regard que tu portais sur la faiblesse des hommes, sur une part à la fois de vitalité et, même si ça paraît paradoxal, d'impuissance masculine. Et qu'à travers le personnage de Gérard, tu as porté un regard beaucoup plus, ouais, beaucoup plus généreux, beaucoup plus... et qui a évidemment beaucoup servi et le personnage et ton roman. Et c'était nouveau, c'était neuf. En ça, ça me paraît intéressant d'être souligné, parce que jusqu'à présent, il y a une typologie quand même de figure masculine avec laquelle tu n'avais... tu ne faisais pas de quartier, quoi. C'est vrai. Et soudainement, en travaillant vers la violence, paradoxalement, je t'ai vu aussi peut-être apprendre à regarder une certaine forme, en tout cas, d'expression du masculin, autrement que tu ne l'avais fait jusqu'à présent, et j'ai trouvé que c'était littérairement aussi assez intéressant à explorer.
Si je l'ai fait, et je crois qu'en effet, il y a ça qui s'est passé dans l'écriture de Vers la violence, c'est parce que ce n'était pas programmatique. Je pense que je ne me serais pas dit, tiens, ça m'intéresse d'écrire un texte qui va vers la tendresse à l'égard de la masculinité toxique, pour le dire, si le dire vite et mal. Comme projet, je pense que ça ne m'aurait pas spécialement intéressé. Mais ça s'est fait dans l'écriture. Et ça, je trouve intéressant aussi, parce qu'entre ce qu'on se dit qu'on va explorer, ce qu'on va travailler, et ce qui se fait malgré nous, il y a quand même un gouffre. Et quand même, là, j'ai des premiers retours sur Vers la violence, et je réalise aussi ce que j'ai écrit malgré moi, ce que j'ai écrit, encore une fois, dans l'ombre de ce que je croyais, de manière assurée et éclairée, écrire.
Mais je pense qu'aussi paradoxal que ça puisse paraître, parfois aller vers la violence, c'est désarmer. On pourrait faire toute une relecture de l'œuvre de Clint Eastwood à travers cette simple phrase. C'est-à-dire que c'est renoncer à une certaine forme de volonté de domination pour aller vers l'expression d'une violence qui n'a plus du tout seulement à voir, en fait, avec le désir de domination, et qui est quelque chose qui s'exprime de manière à la fois plus radicale et plus paradoxale, et parfois à travers en fait l'attention qu'on porte à l'autre, parce que ça peut être très intense aussi, l'attention qu'on porte à l'autre, ça a sa part de violence, ouais, l'attention qu'on porte à l'autre. Ou même des fois, enfin, il y a des civilisations pour lesquelles le don est quelque chose d'agressif. Donc on pourrait réinterroger aussi quelque chose de potentiellement violent. C'est difficile de recevoir aussi des choses qui vous sont tout à coup offertes. Donc en fait, la notion de violence, d'agressivité, elle est peut-être aussi à réinterroger.
La douceur m'avait toujours paru contre nature. Dans les caresses, dans la compassion, dans un sourire tendre, je décelais un piège. Quelque chose qui, sans prévenir, allait m'engloutir. Des appréhensions idiotes, les cheveux longs, les hanches généreuses, et par-dessus tout, va savoir pourquoi, la couleur rose me terrifiait. Je craignais le mépris des hommes comme les animaux le feu. J'aurais tout fait pour y échapper. J'avais coupé mes cheveux en un carré court à 15 ans. Je ne m'habillais que de jogging noir ou mauve, de t-shirt ample et de baskets d'imitation Adidas. Volontairement, j'avais baissé ma voix d'un ou deux tons. Au quotidien, j'étais silencieuse et abrupte. Je ne comptais pas revenir là-dessus. La féminité, basta. Sauf que, après ma rencontre avec Raphaël, tous mes principes s'effondraient. Après qu'on eut fait l'amour, ma première envie fut d'aller acheter une robe. C'était en août. Et j'éprouve encore ce que j'éprouvais alors quand je me lançais dans la rue en quête de ce vêtement souple que je pensais pourtant avoir banni à tout jamais de ma vie. Une confiance en moi inouïe. Une confiance que je n'avais jamais éprouvée. L'envie de montrer mon corps, pas mes efforts, pas ma souplesse ni mes muscles, non, mais mon corps, mes cuisses, mes hanches, ma peau, le galbe de mes fesses, la rondeur de mes seins, toutes ces choses qui m'avaient toujours paru immorales, inutiles, interdites. L'envie de les offrir au soleil, l'envie d'essayer toutes les robes du monde et de tourner sur place pour qu'elles puissent voler dans les airs, l'envie d'être libre et de sourire, l'envie d'être belle, l'envie de plaire à Raphaël, l'envie de lui plaire aujourd'hui et dans 10 ans, dans 20 ans, oui. Ce jour-là, je sus, avec une puissance instinctive, jusqu'alors jamais éprouvée, que j'aurais chaque jour l'envie de lui plaire encore.
Pour écrire, je m'isole. Je quitte l'appartement où je vis à Paris et puis je pars dans des endroits plus sauvages, plus esselés. Là d'où je viens, par exemple, en Vendée, dans des petites villes délaissées par les transports avec 500 habitants max en hiver et un café ouvert le mercredi. Et puis là, au milieu du silence des hommes, j'écris. D'abord à la main, dans des carnets Leuchtturm, avec un stylo .0,5, et puis une fois que le mouvement du texte a été trouvé organiquement sur le papier, je le recopie sur ordinateur et je le précise, je le peaufine. Alors parfois ça vient pas, ça ne sonne pas juste, alors je vais marcher, je parle toute seule en forêt, je me pose des questions comme on enquête, et puis j'enregistre mes bredouillements pour y répondre. Puis je réécoute, je recopie ce qui me semble intéressant, en général pas grand chose, mais il y a toujours comme ça une petite phrase qui semble vouloir en dire plus, qui est comme un indice. Je suis un peu stakhanoviste de caractère, donc en général je travaille pendant 15 jours sans vraiment m'interrompre, si ce n'est pour manger, lire et dormir. Et puis aussi, et ça c'est sans doute plus important que ça n'en a l'air, ces plages de concentration et d'écriture, je les interromps assez souvent pour faire du sport. Je vais courir, nager, danser, je fais l'amour aussi, ça me permet d'éprouver mon corps et je crois de me tenir de sorte à pouvoir maintenir l'endurance des phases d'écriture. Et j'écoute beaucoup de musique également. Ça me permet de rester en mouvement, de ne pas m'affaisser, de garder une forme de vivacité. Et en fait, d'avoir envie, plus simplement, chaque matin au réveil, de me remettre au travail. La musique, pour moi, ça aide à ça. Ça aide à maintenir intact le désir.
Derrière leur écran total, les gens se régalent. La ville est à cran d'arrêt, visage pâle. C'est le carnaval. Mais où sont les enfants et les clairières d'opale dorénavant? Ah, que le cœur me fend, je me souviens mal du monde d'avant. Très mal. J'étais où et quand pour le grand final, le feu de Bengale. Derrière mon écran sans doute, mon écran total, à perdre les pédales. Je n'avais pas mes lunettes spéciales. J'étais où et quand, derrière mon écran, et je disais mal. Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser? Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser? Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser?
Texte le plus physique. C'est la première fois que tu parles de la danse, qui fait partie aussi intégrante de ta vie, hein, dans un texte, et c'est la première fois que tu parles aussi, je dirais, frontalement de sexualité. Et ce qui m'a frappé très vite, c'est qu'il m'a semblé qu'on pouvait faire une espèce de parallèle, en fait, entre l'arc narratif qui sous-tendait l'évolution que le personnage de Lou entretenait à la danse, et avec l'arc narratif qui sous-tend l'évolution que Lou a avec le sexe aussi. Et c'est ça que j'ai eu envie d'interroger, parce que au début du livre, Lou explique que la danse est pour elle une discipline d'ordre militaire, c'est-à-dire qu'elle la conçoit comme un exercice de domination de son corps par elle-même, par sa volonté, par la volonté, etc. Et puis petit à petit, à force de travailler comme elle travaille, elle découvre que la scène peut devenir aussi un lieu beaucoup plus affranchi finalement, et un lieu d'épiphanie possible via le corps, mais qui oblige justement à désarmer et à abandonner la discipline militaire pour quelque chose de beaucoup plus, enfin de tout aussi rigoureux, mais de beaucoup plus libre et de beaucoup plus incarné. Et dans le rapport qu'elle entretient à la sexualité, une question s'est posée, c'est-à-dire qu'au départ, dans le manuscrit de départ, le personnage me semblait frappé d'une ambiguïté assez décisive, mais que j'avais envie d'essayer de t'inviter à travailler. C'est-à-dire qu'on pouvait... Enfin, moi, je me suis posé la question, et je n'avais pas la réponse, d'ailleurs. Et je me souviens de l'avoir posée. Je t'ai dit, mais est-ce que... puisque donc elle recherche quelque chose de très intense dans sa sexualité qui passe par des étranglements, au début, qu'elle va même arracher à des hommes dans des bars, donc c'est très concret. Et puis avec son compagnon Raphaël, elle recherche aussi des fois les frontières de jeux comme ça, qui pourraient apparaître comme des jeux de domination. Et donc je t'ai demandé si le personnage développait une sexualité masochiste. Parce qu'il m'avait semblé que justement la violence du masochisme, elle passe par quelque chose qui me semblait finalement assez loin d'elle. Enfin, c'est une violence, si on repart sur les textes qui ont été écrits par Masoch, commentés par Deleuze, etc. C'est une violence qui passe par le pacte. Donc il y a quelque chose de la violence qui est cadavérisée par la sécheresse du pacte dans le masochisme. Et ça me semblait assez loin de cette violence vers laquelle tendait, vers la violence de Lou, et du loup d'ailleurs, c'est-à-dire la violence archaïque, quoi, la violence vitale. Donc j'ai eu envie que tu élucides quelque chose de cette ambiguïté. Est-ce qu'elle était masochiste, ou est-ce qu'elle recherchait d'une autre manière encore cette sensation du couteau dont tu parles aussi beaucoup, mais sans rien concéder en fait à la partition masochiste? Et c'est une question que j'avais envie que tu interroges et que tu creuses en fait dans ton personnage.
La sensation du couteau était l'une des théories préférées de Gérard. Il l'avait ramenée de la marine comme un souvenir d'escale. Il disait « La vie, c'est une traque de moments aussi nets, exacts, qu'un coup de couteau dans un mur. » Il disait « On vit n'importe comment, à la recherche de la sensation du couteau. » Il n'expliquait pas ce qu'il voulait dire par là, mais je crois qu'il désignait par le couteau ces moments où l'on se sent un peu plus que vivant. Il voulait dire qu'on traque tous, même et surtout si on ne se l'avoue pas, les instants obscènes, les impressions d'avant-catastrophe, les vacillements. Quand il évoquait la sensation du couteau, on sentait que la violence et la vitalité ne faisaient plus qu'un. Il m'a dit une fois « Toi aussi tu chercheras le couteau, à ta manière. Personne n'y échappe. »
C'est vrai que c'est une question qui semble assez précise et qui semble avoir pour but strictement de caractériser un personnage. Est-elle masochiste, cette Lou, ne l'est-elle pas? Et je crois que c'est une question qui a ouvert le texte plus que je ne le croyais, au sens où j'y ai répondu à cette question par la négative. Je ne pense pas que Lou soit masochiste, je pense qu'elle cherche des moments de menace et de jouissance, mais c'est des moments qui sont arrachés, qui ne sont pas donnés par un pacte et qui ne sont surtout pas légiférés. Enfin, il n'y a pas quelque chose qui les prédétermine, en fait. Elle cherche, en fait, à être ravie. Et de manière générale, en fait, je crois que dans mon écriture, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer ce ravissement un peu étrange que peut aussi nous procurer l'écriture par soudain une phrase trouble, un mystère, quelque chose qui excède le sens, quelque chose qui à la fois nous menace et nous ravit, voilà, arrache quelque chose de nous. Et je crois que répondre à cette question, bizarrement, ça a, donc à la question du masochisme, ça a précisé mon écriture sur presque tout le manuscrit. Enfin, ça a retiré certaines phrases qui me semblaient en fait trop claires, trop explicites, trop légiférées, je sais pas exactement comment le formuler, mais trop déterminées. C'est ça en fait. Et ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est de trouver de l'indéterminé. Et dans la manière aussi dont j'ai abordé les genres, hommes, femmes, dans le texte, c'était de trouver de l'indéterminé. Tiens, où est-ce que ça s'indétermine? Et où est-ce que l'écriture réouvre des possibles? Et bizarrement, cette compréhension-là de ce que je cherchais dans le manuscrit, dans l'écriture, donc cet indéterminé-là, m'a été mise au clair par cette question sur le masochisme.
Peut-être que, effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a souvent aujourd'hui, dans les discussions qu'on peut avoir ou dans le débat public, on est de plus en plus effectivement conditionné par des réflexes. C'est-à-dire qu'il y a une pensée qui parfois se condamne elle-même à obéir à certaines injonctions qui n'en sont même plus, c'est-à-dire qu'elles sont intériorisées au point qu'elles ne relèvent plus de l'injonction, c'est de l'ordre du réflexe, et la pensée se voit des fois tétanisée par les réflexes mêmes. Et j'emploie ce mot-là parce que c'est ce qui ankylose parfois le corps, hein, aussi les réflexes, et qui peut ankyloser aussi le corps de la pensée. Donc comment réinoculer un petit peu de vie, en fait? Et réinoculer de la vie, ça passe souvent par des refus, ça passe souvent par une forme de capacité qu'on trouve en soi à agresser ce qui paraît aller de soi. Et je pense qu'effectivement, dans ce livre, peut-être que c'est passé par des chemins un petit peu inattendus en travaillant, parce que tout innerve tout, quoi, en littérature. Donc en travaillant la sexualité de ton personnage, peut-être qu'effectivement, t'as eu envie aussi de libérer quelque chose de ce que tu avais envie à travers eux, à travers elles, de signifier, par exemple, de la condition féminine contemporaine, de la condition masculine contemporaine, et qu'il y a quelque chose aussi à ce niveau-là qui, très concrètement, très organiquement dans le texte, s'est libéré.
Il n'est pas de hasard, il est des rendez-vous, pas de coïncidence. Aller vers son destin, l'amour au creux des mains, la démarche paisible, porter au fond de soi l'intuition qui flamboie, l'aventure belle et pure, celle qui nous révèle, superbe et enfantin, au plus profond de l'âme, porté par l'allégresse et la douceur de vivre, de l'été qui commence. La rumeur de Paris, comme une symphonie, comme la mer qui balance. Se fumer, le monde me bouscule, réfugié dans un coin et observant de loin la foule qui ondule, mais le choc imminent, sublime et aveuglant, sans prévenir arrive.
Par rapport au corps aussi, ce qui me semble intéressant, c'est les allers-retours incessants que moi j'ai pratiqués entre l'ironie, la tendresse, l'accusation, la défense du personnage, enfin le fait de en permanence revenir sur le texte et faire ces allers-retours. Mais à la fin, c'est quand même toujours le corps qui sait si une phrase est bonne ou non. Et c'est toujours le corps qui tranche. C'est-à-dire que ça se sent, en fait, à la fin. On a beau... J'ai l'impression d'avoir cérébralisé, bien sûr, en me disant, là, il y a plus de tendresse, plus d'ironie, il faut être moins complaisant. Enfin, voilà, tout ça est volontaire, disons, et senti, intellectualisé. Mais à la fin, je lis le texte, et ça reste ou ça ne reste pas. Et ça, ça me semble quand même toujours assez mystérieux aussi avec l'écriture. Parfois, une phrase me semble assez exacte, les mots, disons, sont les bons et disent l'idée que je veux transmettre. Mais s'il manque une forme de musicalité, de quelque chose qui s'entend et qui se sent, quoi, de musicalité, de tranchant, quoi, de soudain la phrase va faire effet ou ne va pas faire effet, eh bien elle reste ou elle ne reste pas. Et j'ai essayé, dans la mesure du possible, évidemment, on ne peut pas avoir cette exigence sur absolument chacune des phrases, mais de garder que les phrases qui faisaient effet, quoi. Je me souviens notamment d'un passage qui finit par « Ses yeux sont les miens », où je parle d'un loup qui raconte qu'arrivée à l'adolescence, elle se met à exercer une forme de violence sur son chien ardent, un malinois, et elle voit la souffrance dans les yeux du chien, et ça finit par ça, à la ligne, « Ses yeux sont les miens ». Et je me souviens que cette phrase-là, elle m'est venue justement alors que je marchais en Vendée, dans la forêt. Et soudain, j'ai eu ce truc « Ses yeux sont les miens ». Et je l'avais écrit, je pense qu'il y avait carrément tout un paragraphe qui voulait dire « Ses yeux sont les miens ». Et soudain, le paragraphe est parti, alors que les phrases étaient censées, que tout ça intellectuellement était OK, quoi. Mais soudain, « Ses yeux sont les miens » était la bonne phrase. Elle était musicale, elle était juste et elle voulait dire tout. Et c'est en fait à la fin le corps qui l'emporte, quoi. Le corps de la phrase.
Souvent, le travail d'écriture, c'est de traquer au plus près quelque chose, effectivement, d'une musique intime, mais qui peut, au moment où on écrit, se voir parasité par un certain nombre de choses, par des pensées, un petit peu trop par des scories théoriques, par des choses qui, en fait, alors même qu'on a l'impression qu'elles aident à préciser la phrase, l'encombrent, en fait, l'embarrassent. Et parfois, traquer, aller au plus près de cette musicalité intime, arriver à plus de justesse dans ce travail de la phrase, ça passe effectivement par la suppression. J'ai un ami qui disait que tout accomplissement était suppressif.
Quel est le rôle de la suppression dans l'écriture ? Eh bien, un rôle massif à mon avis. C'est une phase de l'écriture assez cruciale, celle de la suppression. Pour le manuscrit de Vers la violence, j'avais écrit presque 500 000 signes, et puis le manuscrit final en fait 328 000. Donc je suis passée par beaucoup de stades de réécriture. Pendant un long moment, la narration de mon texte était prise en charge par un homme, un prof de PS, Fred de son prénom. Je l'aimais bien, j'ai cohabité avec ce personnage pendant tout le confinement, mais quelque chose ne fonctionnait pas tout à fait. Ou disons qu'avec ce personnage masculin, quelque chose me paraissait trop convenu. Il était assez sarcastique en fait, et je cherchais, je pense, une écriture plus juste. Alors il a fini par changer de genre, et j'ai dû supprimer 5 ou 6 chapitres qui n'avaient plus aucun sens. De manière générale, on ne le dira jamais assez, mais écrire, c'est toujours réécrire, réécrire, réécrire encore, porter un regard dur sur ses propres complaisances, tout en s'autorisant à rater. Rater encore, rater mieux, jusqu'à trouver la bonne tonalité. C'est comme une musique intérieure qu'on traque.
Ce que je trouve
trouve intéressant, c'est que la musique intime, qui en FM semble être le cœur de ce qu'on traque quand on écrit, parfois c'est les autres qui nous remettent aussi la tête dessus, si l'image n'est pas très heureuse. Et en l'occurrence, moi j'habite avec un musicien, donc il relie aussi ce que je fais, et souvent en temps réel. Enfin, c'est-à-dire que je lui lis des paragraphes le soir même. Enfin, et dans son regard, dans sa manière, dans son écoute aussi, je vois tout de suite quand ce sont des phrases qui m'appartiennent et quand je suis parlée par d'autres phrases. Je vois tout de suite parce que ça l'ennuie en fait, quand je suis parlée par, quand c'est pas ma voix. Et je le vois tout de suite, ouais, à son... Et aussi parce qu'il est musicien, c'est pour ça que je le précise, parce que je pense qu'il a une attention à ce qui sonne un peu faux ou pas tout à fait juste, ce qui a été emprunté à d'autres. Et encore une fois, c'est long, je crois, et c'est ça le travail d'écriture, mais c'est long de revenir à sa musique, à soi, de retrouver ses phrases à soi, de se débarrasser de tout ce qui nous parle malgré nous. Et c'est aussi une attention, ouais, à quelque chose de, qui a à voir avec, avec l'âme, avec la musique, avec voilà, une part aussi poétique, au sens fort. Moi, je sais que j'ai en tous les cas traqué ça en écrivant ce texte, si on me débarrassait de tout ce qui s'éloignait de la musique et que le regard d'autre, d'une éditrice, d'un musicien, voilà, d'amis, m'y aide aussi.
Quand on est sur scène ou dans la fosse, il y a une dose d'idiotie inévitable. On ne peut pas réfléchir en dansant. S'arracher les cheveux avant et après, oui. Mais pendant, c'est comme le sexe. Il faut s'abandonner et, durant une heure, n'être qu'un corps lâché parmi d'autres. Une somme de gestes et de mots qui s'affolent ensemble. Un train dans la nuit, comme dirait l'autre. Le retour sur soi, le sarcasme et l'œil critique ne viendront qu'après, dans la voiture ou le wagon, une fois la console remballée et la salle quittée. Dans la fosse, sur la scène, on est là, entièrement là, avec d'autres, bêtement là, ensemble. Et ce n'est peut-être pas grand-chose, mais c'est ça qui donne corps à tout. Cette vie brutale, sauvage et idiote, cette vie du corps qui ne calcule ni ne pèse, mais pour un temps s'emballe et s'éprouve. Ces instants directs, merveilleusement simples.
Alors là, on arrive sur une autre étape encore, c'est celle de la mise en fiction, du peaufinage de la narration. Pour plusieurs raisons, à la fois esthétiques et pudiques, j'ai beaucoup travaillé avec Vers la violence, la mise en fiction de l'histoire. D'abord, écrire pour moi, c'est observer. Donc j'écris des choses à partir de mes proches, de moi-même, à partir d'articles lus. Et je fais comme ça un composite assez hétérogène. Et puis vient un moment où ça se condense en une histoire, et cette histoire dicte sa loi. Et là, c'est encore un retravail du texte assez acharné, parce qu'il faut que tout soit cohérent. C'est une étape de travail où j'aime aussi à m'entourer d'amis, à qui je confie le manuscrit. Alors, ils et elles ne sont pas très nombreux, mais ils sont choisis parce qu'amicaux et critiques à la fois. Et ils me posent des questions pour préciser encore le texte. Ils voient en fait des incohérences ou des facilités que je ne vois plus ou que je n'ai pas vues. Parfois ils sont gênés ou alors ils sont émus et ils me renseignent sur ce qui manque encore à la fiction pour qu'elle fonctionne vraiment, pour qu'elle fasse de l'effet. Grâce à eux, grâce aussi à mon éditrice, j'essaye de préciser non plus le récit, mais vraiment le roman. C'est une transition.
Je dirais qu'il y a eu deux temps. Il y a eu deux temps parce que je me rappelle, comme Frédéric, c'est vrai que c'est une version du manuscrit que je n'ai pas lue, mais tu m'en as parlé. Et je voyais bien ce qui présidait au choix, qui n'en était peut-être pas tout à fait un, qui était peut-être un peu un pis-aller du narrateur masculin, c'est qu'il y avait en toi des résistances, un certain nombre de choses qui se met en branle dès qu'on s'empare d'un matériau autobiographique, c'est-à-dire, et surtout quand il est aussi familial. C'est-à-dire qu'il y a aussi des résistances qui ont à voir avec des loyautés inconscientes, qui entravent, qui peuvent entraver dans un premier temps le travail du texte, qui fait qu'on va pour de mauvaises raisons vers certaines formes de fiction. Bon. Et c'est vrai que je suis souvent, en tant qu'éditeur et en tant qu'éditrice, confrontée à ça, et que dans un premier temps, j'essaie de rappeler aux auteurs qu'à mon sens, ce qui fonde le geste littéraire, c'est une certaine forme d'arrogance. Et j'emploie le terme à dessein parce que arrogance, ça vient du latin arrogare, et c'est s'attribuer un pouvoir alors même qu'on ne vous en reconnaît pas la légitimité. Voilà. Et dans un premier temps, j'encourage les auteurs à faire ça, c'est-à-dire à s'arroger tous les droits, à s'arroger tous les pouvoirs et à aller au bout de ce geste-là, surtout si ça concerne la famille. Il y a une phrase de Kafka que j'aime beaucoup, qui clôt le dernier film de Yolande Zauberman, et qui dit « Je suis parmi les miens avec ce couteau pour les agresser, je suis parmi les miens avec ce couteau pour les protéger. » Et Yolande Zauberman conclut en disant « Ce film est mon couteau. » Moi, c'est vrai que j'invite les auteurs et les autrices qui travaillent avec moi à faire le plus possible de leur livre un couteau. Et donc, d'aller au plus proche de tout ce qui fâche, de tout ce qui risque de déplaire, de tout ce qui risque d'agresser, de tout ce qui risque d'indisposer. On doit se permettre des choses que, pour une part, les lois sociales, les lois juridiques ne permettent pas toujours. Et puis ensuite, évidemment, plus on a été loin vers cette violence-là, plus on a été loin dans cette anarchie-là, plus il faut se poser des questions d'ordre éthique, qui finissent par recouper les partis pris narratifs, les partis pris esthétiques qu'on a dans un premier temps empruntés et de les repréciser. Et c'est vrai que j'étais... Ça m'a beaucoup intéressé de te voir travailler dans cette recherche-là, parce que tu as effectivement, me semble-t-il, découvert à quel point le recours possible, le recours presque technique à la fiction, parfois pouvait devenir une morale, et en même temps, comment il pouvait devenir le lieu d'expression d'une radicalité beaucoup plus forte, en fait, que si tu t'en étais tenu à la lettre autobiographique. C'est-à-dire que tout à coup, si tu t'affranchis toi-même de ce que tu pourrais, à travers ton texte, vouloir dire à certaines personnes de ton entourage, eh bien ça t'oblige à t'interroger sur ce que tu veux signifier à travers eux, vraiment, indépendamment, si j'ose dire, de l'histoire qui te lie à eux. De quoi Gérard, par exemple, de quoi le personnage de Gérard doit-il devenir le vecteur? Qu'est-ce qu'à travers lui tu veux dire des hommes au XXIe siècle? Qu'est-ce que tu veux dire de l'impuissance masculine au XXIe siècle? Et tout à coup, ça t'oblige effectivement à te préciser de manière beaucoup plus radicale, la fiction t'oblige à ça, parce que tu dois te libérer de ce qui pourrait être une simple tentation d'un règlement de compte intime, qui peut avoir ses raisons d'être aussi, mais qui est toujours plus faible si l'espace littéraire s'en tient là, quoi, si la littérature s'en tient là.
Alors je peux donner de ça un exemple. Dans le livre, Gérard est policier, mais dans la vie, la personne qui l'a inspiré fait un autre métier. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire de Gérard un policier? Assez tôt, c'était en fait une évidence, parce que ça me permettait d'édifier un personnage agi par des questions actuelles, qui déborde sa vie intime, personnelle et contingente. Ça me permettait de m'interroger sur la violence policière, et puis aussi sur la violence légitime, sur ce qui fait que parfois, on répond à la violence par la violence. Et puis c'était aussi une manière d'édifier un archétype sociologique, un archétype masculin, un policier des classes moyennes qui se veut, je cite le livre, « un homme, un vrai » comme on disait avant MeToo. Et les questions que se posait ce personnage, sa mythologie intérieure, ses fantasmes d'un autre temps, sans doute un peu caduques aujourd'hui, ces questions m'intéressaient. Je voulais raconter ce flic aventurier comme s'il était le vestige d'une espèce en voie de disparition. C'est Gérard, mais c'est aussi beaucoup d'autres hommes.
Il aurait rêvé de courir avec des fauves dans le Grand Nord, à la Jack London, de mourir pour sa patrie à la Saint-Exupéry, de gouverner dans la fortune et la gloire de César. Il se voyait dans la Royal Navy du XIXe siècle, chemise blanche, jaquette d'enseigne de vaisseau, pantalon tiré à quatre épingles et cravate au vent. Il s'imaginait pionnier d'un autre siècle, mu par un idéal du moi américain irréalisable et pris en étau dans la France des années 1990, il avait, pour ainsi dire, un surplus d'énergie inemployée, comme s'il était né avec une libido pour laquelle le monde, le sien, n'était pas prêt. Cet excès de sève lui pesait, comme à un lévrier anglais confiné dans un studio d'étudiants. À son corps défendant, la nuit, cette force inemployée se changeait même en violence. Fauve domestiqué contre son gré, il nous mordait faute d'avoir pu ailleurs et autrement se dépenser.
Le fait d'aller vers une narration plus tenue, mais aussi vers une écriture qui emprunte à des mythes, vers une écriture un peu plus mythologique. Enfin, je sens que j'ai travaillé ça, alors notamment avec des présences animales dans le texte, qui du coup l'amène un peu du côté du mythe et du côté d'une mythologie littéraire, d'une écriture en tous les cas qui emprunte à une écriture mythologique. Ça me permettait de montrer que certaines relations, certains actes soient un peu plus grands que ce qu'ils n'en ont l'air. Ils veulent en dire plus, quoi. Ils veulent en dire plus, et ça, montrer qu'ils veulent en dire plus, c'était le travailler en ayant recours au mythe. Et il me semble que la mythologie littéraire, que la fiction en fait, que les romans, leurs intrigues, leur part poétique, permettent d'exprimer ce qu'il y a de plus archaïque, peut-être ce qu'il y a de plus essentiel en nous. Des palpitations qui sont enfouies, des secrets qu'on ne dit pas tout à fait, des choses tues. Et pour le dire, pour creuser ça, il faut bizarrement passer par plus de narration, de fiction, et faire appel aussi à des récits qui nous précèdent, s'en réemparer, se dire on s'inscrit aussi dans ce temps-là, plus large, plus ancestral du récit des hommes et des femmes. C'est pas juste moi qui vous raconte ma petite histoire au quotidien, mais en fait ça veut en dire plus, c'est plus grave. Roland Barthes à propos des mythologies dans l'émission Lecture pour tous en 1957.
Comment pourrait-on définir votre travail, Roland Barthes ?
Eh bien, oui, moi aussi je suis un peu embarrassé parce que, enfin, il se présente, si vous voulez, comme une collection de matériaux, d'analyses de mythes de la vie quotidienne moderne à nous Français, le tout couronné par une sorte d'essai plus théorique sur ce que peut être alors un peu plus abstraitement la notion de mythe aujourd'hui.
Je crois tout de même que ce qui est frappant, et ce qu'il faut expliquer tout d'abord aux spectateurs qui sont, je pense, les futurs lecteurs de votre livre, c'est que les têtes de chapitre ou les sujets de vos analyses sont des sujets qui leur sont généralement très familiers. Ça va d'un produit, d'un savon pour lequel on fait tous les jours de la publicité, au catch qu'ils voient à la télévision, à l'abbé Pierre dont leur parlent les journaux. Je crois qu'on pourrait dire tout de même qu'il y a là, au départ, un recensement de quelques-uns des principaux mythes qui tissent notre vie quotidienne, n'est-ce pas ?
Mais oui, d'ailleurs c'est comme ça que je les ai pris. Ils ont fait partie de mon actualité comme ils faisaient partie d'actualité des autres Français,
c'est cela,
au moment où je les étudiais.
Et alors évidemment, là où les choses deviennent plus compliquées, c'est un moment où il faut expliquer quel travail vous avez fait sur ces matériaux, comment vous essayez de les élucider, dans quel sens.
Oui, j'essaye de voir en quoi ils sont des grandes représentations collectives,
oui,
rappelant donc par là même ce qu'était le mythe autrefois,
oui,
et en quoi, malgré tout, ces représentations collectives sont bien de notre temps, sont produites par notre société et par notre histoire.
Une dernière étape du texte, pour moi, c'est d'en préciser les images, les visions. C'est un peu comme si j'édifiais d'abord une maison avec ses poutres, ses murs, son toit, et puis une fois qu'elle tient bien, qu'on peut lui faire confiance pour ainsi dire, eh bien je peux en préciser l'allure, je peux en décider la couleur, l'aménagement précis, m'attarder longuement sur les détails. À la fin de l'écriture de Vers la violence, alors que le texte était là, j'ai fait des recherches d'inspiration visuelle pour préciser certaines images, et notamment les images animales du texte. J'ai une amie qui travaille dans l'art contemporain et qui m'a notamment envoyé un PDF avec des œuvres qui mettaient en scène des loups, des chevaux, des fauves. Et à les regarder comme ça, j'ai compris quelques dernières subtilités sur le texte que j'écrivais. Il y a notamment une œuvre de Rae Klein, un peintre, où on voit une gueule de loup rouge, sanglante, et l'œuvre s'appelle « Care », soin. Comment parfois, alors qu'on croit porter soin à l'autre, en réalité on le violente ? Ça fait partie des dernières questions que je me suis posées et que j'ai posées à mon manuscrit, et c'est une peinture qui me l'a suggéré. Et puis bon, le texte a été fini. Et là, c'est comme si j'avais gagné en réalité. On croit qu'on écrit un roman, et en fait, comme un serpent, on travaille surtout à changer de peau. On croit qu'un roman est anodin, coupé du monde, et puis ce roman vous change, plus sérieusement que n'importe quoi avant ça. Et à cet effet de réel-là, je dois dire que je ne m'attendais pas.
Il y a une tendance de fond dans la vie intellectuelle française que tu as pressentie, c'est qu'on a tendance à ne pas prendre le roman trop au sérieux. Et moi, je pense qu'on a tort. Et on ne le prend pas trop au sérieux parce qu'on estime qu'il y a d'un côté les gens qui se collent au réel, puis de l'autre côté, il y aurait des gens qui écriraient des romans. Mais en fait, la fiction n'a affaire qu'au réel. La fiction n'en finit plus de négocier, si j'ose dire, d'entretenir des rapports passionnément étroits, sensuels et sensibles avec le réel. Simplement,
elle le transfigure, elle le transpose, elle le travaille au corps pour essayer de rendre le, comment dire, la vision qu'on a du monde encore plus précise, quoi, si j'ose dire. Parce que la vision subjective qu'on a des choses n'a plus seulement à voir avec la réalité. Mais en fait, le roman a tout à voir avec le réel. Et il est à prendre au sérieux. Il est à prendre au sérieux parce que ça peut effectivement, ça peut impacter. Je ne dis pas qu'un roman peut changer, moi je suis pas sûre du tout que le roman puisse changer, je ne crois pas qu'il puisse agir sur le monde, mais il peut agir sur l'entourage, il peut agir sur les, encore une fois, les gens qui ont été mis en jeu et en joue à travers le travail, à travers le matériau autobiographique.
Aucun express ne m'emmènera vers la félicité. Aucun taco ni un costaurant. Aucun concorde n'aura ton envergure. Aucun navire n'y va, sinon toi. Aucun trolley ne me tiendra si haut perché. Aucun vapeur ne me fera fondre. Des escalators au chariot ailé, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. J'ai longé ton corps, épousé ses méandres. Je me suis emporté, transporté par-delà les abysses, par-dessus les vergers, délaissant les grands axes. J'ai pris la contre-allée. Je me suis emporté, transporté.
Comment est-ce qu'on sait qu'un texte est fini? On ne le sait pas, on le sent. À nouveau, je crois que c'est physique et instinctif. J'ai pu retravailler un texte pendant 3-4 ans avec des moments de découragement, mais avec un élan, une électricité de fond. Et puis soudain, je sens que je ne peux plus le retravailler. Et donc, à ce moment-là, je commence à réfléchir à une date de sortie, à une couverture, à des choses qui sont extérieures au texte. Je sors de la matière. Et peut-être qu'en dépit de tous mes efforts, le texte reste encore, à ce moment-là, imparfait. Mais j'ai tout fait. J'ai mis toute mon énergie, toutes mes forces physiques, mentales. Et maintenant, je regarde le fichier sur mon écran. Et il commence presque à avoir une allure un peu répugnante. Je ne veux plus vivre avec lui. La chose est morte, mais elle va vivre, autour de moi. D'autres, les lectrices, les lecteurs, vont prendre le relais. C'est leur tour. Pour moi, c'est fini. Tout ce que je pouvais dire a été dit. Le fruit est mûr. Il tombe de l'arbre.
Rows and flows of angel hair. An ice cream castle's in the air. And feather canyons everywhere.
C'était Vers la violence, la fabrique d'un roman.
Looked at clouds that way.
Avec un entretien avec Stéphanie Pollack, éditrice. Des extraits du roman lus par Rebecca Marder, comédienne. Une musique originale de Pierrot. Prise de son, Olivia Branger. Mixage, Manon Houssin. Coordination, Aurélie Charon et Inès Duperron. Une expérience de Blandine Rinkel, réalisée par Julie Bérécy.
I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds. Moons and Junes and fairies wheels, the dizzy dancing way that you feel as every fairy tale comes through. I've looked at love that way, but now
it's just another show. And you leave them laughing when you go. And if you can, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love's illusions that I recall. I really don't know love. I really don't know love at all. Say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds, I've looked at life that way. Oh, but now old friends, they're acting strange, and they shake their heads and they tell me that I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. I've looked at life from both sides now, from win and lose, and still somehow it's life's illusions I recall. I really don't know life at all. It's life's illusions that I recall. I really don't know life. I really don't know life.